Qu'est-ce qui empêche pourtant, dira-t-on, de confondre en un tout vertu et volupté, et d'édifier le souverain bien de manière à en faire une chose à la fois honnête et agréable? C'est qu'il ne peut exister d'autre aspect de l'honnête en dehors de l'honnête lui-même, et le souverain bien perdra son intégrité s'il se trouve en lui quelque chose qui ne s'assimile pas au meilleur. Même la joie que fait naître la vertu, quoiqu'elle soit un bien, ne fait pas partie du bien absolu, non plus que l'allégresse et la tranquillité, malgré la beauté de leurs origines. Car si ce sont là des biens, ce ne sont que des conséquences et non des accomplissements du souverain bien. Celui qui associe vertu et volupté fut sans les tenir pour égales, émousse par la fragilité de l'une tout ce qu'il y a de vigueur dans l'autre et impose un joug à cette liberté invincible, seulement s'il n'existe rien de plus précieux qu'elle. Car si c'est le cas, elle commence, et il n'est pas de plus grande servitude, à être tributaire de la fortune. Et que s'ensuit-il ? Une vie inquiète, soupçonneuse, tremblante, soucieuse des accidents, suspendue aux mutations de l'existence. Tu ne donnes pas à la vertu un fondement solide, tu veux l'édifier sur un terrain instable. En effet, qu'est-il de plus instable que l'attente des hasards et les changements du corps et de ce qui l'affecte? Comment obéir à la divinité et faire face d'une âme égale à tous les événements sans se plaindre du sort et en prenant ses malheurs avec philosophie si l'on est ébranlé par les moindres piqûres du plaisir ou de la douleur? On ne sera même pas un bon défenseur de la patrie, ni un garant de sa liberté. Pas davantage un bon soutien pour ses amis si l'on penche du côté de la volupté. Que le souverain bien s'élève donc jusqu'en un lieu d'où aucune force ne puisse l'arracher, auquel n'est accès ni la douleur, ni la convoitise, ni la crainte, ni aucun autre sentiment de nature à porter atteinte à ses droits. Or, seule la vertu peut s'élever jusque-là. Sa progression doit rendre la pente moins abrupte. Elle restera ferme, supportera tous les événements, non pas seulement en les subissant, mais en les acceptant, consciente que toutes les difficultés sont une loi de la nature. Comme un bon soldat, elle supportera ses blessures, comptera ses cicatrices, percée de traits, elle mourra en aimant le chef pour qui elle tombe. Elle aura présent à l'esprit ce vieux précepte. Suis ton Dieu. Celui qui se plaint, pleure et gémit, est contraint d'obéir de force. Il n'en est pas moins, malgré lui, amené à exécuter les ordres. Quelle folie de se laisser traîner plutôt que de suivre. Et ma foi, il y a une égale sottise, une égale ignorance de notre condition à se lamenter à cause de quelque manque ou de quelque accident un peu pénible et à s'étonner et s'indigner de ce qui arrive au bon aussi bien qu'au méchant. J'entends les maladies, les deuils, les infirmités et autres disgrâces que nous rencontrons sur le parcours de l'existence humaine. Tout ce que la constitution de l'univers nous astreint à souffrir, endurons-le en faisant preuve de grandeur d'âme. Nous sommes engagés à supporter ce qui est propre à notre condition de mortel et à ne point nous laisser troubler par ce qu'il n'est pas en notre pouvoir d'éviter. Nous sommes nés dans un royaume. Obéir à la divinité, voilà la liberté.